Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurie Plisson,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Beaucoup l'ont découverte en 2018 avec Les Mauvaises Herbes, un roman graphique très fort autour de l'émancipation féminine et du patriarcat à travers le destin des femmes de réconfort utilisées par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu ensuite L'Attente qui racontait une famille coréenne brisée par la partition de leur pays, par la puissance et l'humanité de ses récits et de son trait en noir et blanc. Kum Suk Jeonri Kim s'est installée comme une autrice qui sait appuyer avec subtilité et souvent avec poésie là où ça fait mal. La Saison des pluies, le nouveau récit graphique de cette autrice nous parle à nouveau de son pays d'origine, la Corée du Sud, à travers un prisme original, la relation complexe entre les Coréens et les chiens. L'album est paru chez Futuropolis, il s'intitule « La saison des pluies » et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Kum Suk Jeonri Kim.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi un album autour des chiens? Comment l'idée vous est venue?
Bah, en fait, tout simplement, on a eu un chien, un chien qui est un peu différent des autres, c'est-à-dire qu'il est très angoissé. L'angoisse représente par la violence, donc c'est l'idée est venue de là.
Donc c'est une idée de longue date, elle était en vous depuis déjà pas mal de temps?
Bah, en fait, pas du tout. En fait, je n'avais pas l'intention de vivre avec un chien déjà, parce qu'avant je n'aimais pas le chien, j'avais toujours très peur, parce que je ne connaissais pas le chien, c'est pour ça que je n'aimais pas. Mais en vivant avec mon premier chien, c'est que j'ai commencé à tous les jours écrire quel est le problème, quelle est la situation où il se montre la violence et tout ça. Mais avec le temps passé, c'est là que ça m'est venu l'idée.
Alors vous racontez dans le petit dossier qui se trouve à la fin de l'album que quand vous habitiez en France, il y a quelque temps déjà, les gens vous disaient tout le temps, vous en Corée, vous mangez des chiens. C'est vrai déjà qu'ils vous disaient ça les Français?
Bien sûr, il y a 20 ans déjà, lorsque je suis arrivée, il y a 25 ans, quand je suis arrivée en France, je voyais partout à Paris les croûtes de chiens, déjà je marchais dessus.
Oui, ça n'a pas beaucoup changé. Ça s'est un petit peu amélioré, mais bon, quand même. Hein.
Oui.
Pas trop.
Bah, les Français me disaient que vous, les Coréens, vous mangez les chiens, alors que je n'ai jamais goûté, je n'ai jamais mangé le chien. Pour moi, c'était une agression et que, à l'époque, je me revendiquais.
Oui, mais est-ce que c'est une réalité déjà? Est-ce que les Coréens, alors je ne sais pas, on ne peut peut-être pas dire tous les Coréens, mais est-ce que certains Coréens mangent du chien? C'est vrai ou c'est faux?
Malheureusement, oui, c'est vrai.
C'est vrai. Et c'est le cas dans toutes les régions de Corée, quels que soient les milieux?
Pas exactement, parce que c'est souvent, c'est maintenant, ça a beaucoup changé par rapport au précédemment, mais la tradition est toujours présente et la loi n'interdit pas. Donc à la campagne, souvent, ça existe encore, même en ville, à Séoul, le marché caché, il y a des restaurants qui existent encore.
Et on attribue des vertus particulières à la viande canine?
C'est souvent c'est l'énergie pour la vitalité de l'homme et tout ça, oui.
Alors, est-ce que au fil des années, au fil du temps, le rapport entre les Coréens et les chiens ont évolué?
Bien sûr, parce que depuis déjà pas mal de temps, par exemple, à la capitale, les gens ont beaucoup, vivent avec les chiens comme un animal de compagnie. Et par contre, comme je vous ai dit, la tradition veut qu'on mange les chiens. Les gens, ils mangent, ils consomment en tant que viande de canine.
Alors, je ne sais pas si c'est juste un clin d'œil ou si c'est un hasard total. Il se trouve que dans votre album, la narratrice qui s'appelle Yuna a eu trois chiens, Carotte, Choco et Patate. Autrement dit, des noms d'aliments, des noms de... Donc, comme si justement les chiens se mangeaient, ce n'est pas un hasard total.
Non, mais c'est pas pour manger, c'est parce que c'est pas pour la ressemblance de chien qu'on a nommé.
Voilà, Carotte, c'est parce que c'est un chien roux et allongé qui ressemble à une carotte. Mais comme par hasard, ce sont des aliments. Donc vous allez avoir des gens qui vont dire, voyez, hein, comme quoi vous donnez raison à ceux qui disent que les Coréens mangent des chiens. Alors on va se plonger dans l'album Kum Suk Jeonri Kim. Notre réalisatrice Laurie Plisson a mis en onde de la toute première scène de l'album qui commence à l'intérieur d'une animalerie.
Thank you. Comme vous le voyez, il faut couper ses ongles régulièrement. C'est un bébé, s'il attrape froid, ça peut être grave. Donc mettez-lui une couverture chauffante électrique.
À partir de quand peut-on le promener ?
Vous êtes trop pressé, il faut attendre la vaccination complète.
Le nombre 17 était inscrit sur le box en verre dans lequel était placé notre futur chien. À l'intérieur de la boîte en verre 22, un autre chiot dormait bien tranquillement. Si le chiot numéro 22 avait été dans mes bras, c'est sans doute lui que nous aurions emmené chez nous.
N'oubliez pas le shampoing, le nettoyant pour les oreilles, le parfum, le sachet de croquettes. Revenez ici dans 2 semaines pour la 3e vaccination.
On peut le faire près de chez nous, il y a un vétérinaire. Ici, c'est trop loin.
Notre magasin collabore avec la clinique vétérinaire. Le chiot a l'habitude de ces lieux. Ne serait-ce pas mieux pour lui ?
Et tout mignon ce chiot qui est un corgi roux et qui va donc recevoir ce nom de carotte pour cette raison-là. Alors Koumsouk Gendrikim, en France à partir du 1er janvier 2024, les chiens ne pourront plus être vendus dans les animaleries, les chats non plus. D'ailleurs, et c'est vrai que beaucoup de défenseurs des animaux seront sans doute assez indignés par cette première scène, hein, la scène vraiment qui débute l'album. On voit donc ce chiot dans ce box en verre, et vous utilisez d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'album l'expression « usine à chien ». Quel regard est-ce que vous portez justement sur la vente d'animaux, singulièrement de chiens, dans les animaleries ?
Je suis vraiment contre de l'animalerie parce que c'est vraiment toute une industrie autour de ça. Parce que les chiots qui sont vendus dans des animaleries, ça, ils ont presque 1 mois en fait. Et ils sont disposés comme ça sur les vitrines, les uns et les autres, et dans des conditions vraiment horribles.
Et d'ailleurs, elle regrette, hein, la narratrice Yuna, quelques pas plus loin, elle regrette d'avoir fait cet achat dans une animalerie, mais elle ne s'était pas posé la question avant, quoi. Donc sa première attitude, c'était précisément d'aller le trouver là-bas.
Oui, parce qu'en fait, en Corée, ça se pratique beaucoup. Et à l'époque, je ne savais pas du tout qu'on pouvait adopter les chiens abandonnés dans des centres. Donc, et puis d'ailleurs, je voulais juste passer voir l'animalerie et pas du tout l'entendre. D'adopter un chien ou acheter un chiot.
Alors c'est une décision importante évidemment dans un foyer que de prendre un chien, a fortiori si c'est le premier chien. Et on apprend dans les pages suivantes de l'album pourquoi Hoon, le compagnon de Yuna, a voulu en prendre un. Vous pouvez nous raconter, c'est une décision très, très personnelle, très intime à la base.
Oui, tout à fait. C'est que le personnage principal, donc le garçon Hoon, il a vécu son enfance à la campagne, élevé par sa grand-mère, parce que les parents travaillaient en ville. À l'époque, donc à la campagne, Hoon avait un petit chien, parce que Hoon, il est fils unique, et le chien était comme si c'était son petit frère. Ils s'amusaient ensemble, donc dans sa tête, il a toujours ce mémoire.
Donc c'est Hoon qui a voulu effectivement prendre ce chiot qui s'appelle donc Carotte. Alors au début, Yuna, donc sa compagne, elle est assez dubitative, hein. Elle ne croit pas vraiment, et puis finalement, très très vite, comme souvent dans ces cas-là, on s'attache, et donc elle s'attache à Carotte. Alors c'est assez drôle, parce que il y a une scène qui se passe la nuit, et ils se rendent compte au bout de quelques jours que toute la nuit ils ont vraiment soi-disant besoin de faire des allers-retours aux toilettes, c'est juste pour passer dans le salon et voir Carotte en pleine nuit. Et puis Yuna évidemment elle l'observe beaucoup ce chiot, et il y a dans l'album toute une série de dessins avec Carotte que vous dessinez comme ça en plongée. Vous nous mettez finalement à travers ces scènes là vraiment dans la peau de la narratrice. On voit le chien manger très goulûment dans sa gamelle avec ce bruit très, très caractéristique. On le voit jouer avec un os en peau de buffle, avec des chaussons qui sentent les pieds. Tous ceux qui ont eu un animal de compagnie dans leur vie, forcément, ça va leur dire quelque chose. On le voit aussi couché en train de ronger, hein, donc en l'occurrence, l'os en peau de buffle dans cette position si caractéristique. Vous-même, Koumsouk Gendrikim, vous avez passé beaucoup de temps à observer les chiens pour dessiner cet album ?
Bien sûr, parce qu'en fait, je ne savais pas du tout, mais alors, tout ce qu'il fait, c'est très fascinant, c'est marrant et puis c'est drôle. Je sais pas ce qui est drôle, mais tous les gestes, tous les mouvements et puis qu'il apprend très très vite aussi des mots, de jouer. Il y a une communication entre l'humain et l'animal, c'est incroyable.
Et donc pour dessiner, vous avez vraiment cet étonnement finalement assez enfantin, assez juvénile quoi. La première qualité d'un dessinateur ou d'une dessinatrice, c'est l'observation, c'est d'observer ce qu'il y a autour de soi.
Bien sûr, l'observation et puis écrire des situations, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire.
Donc vous étiez avec votre petit carnet à dessin comme ça, un crayon et un bout de papier blanc pour comme ça croquer le chiot lui-même.
Bien sûr, oui.
Alors c'est évidemment très important parce qu'il est vraiment dans des postures très différentes. Même chose, j'imagine, pour la marche au moment des promenades, pour les scènes de jeu aussi. Toutes les situations dans lesquelles vous placez les différents chiens de l'album sont issues de vos observations, de la réalité.
Tout à fait. Parce
c'est important que ce soit vraisemblable, en fait.
Bien sûr, parce que c'est une véritable histoire. Donc, je voulais que ce soit maximum réaliste pour leurs gestes, pour convaincre aussi pour les lecteurs, pour qu'ils soient avec moi, pour qu'ils soient dans le livre et tout ça.
Alors, il y a la posture, il y a les attitudes, il y a la démarche, et puis il y a aussi le regard. Alors, c'est très important, le regard du chien. Par exemple, là, j'ai devant moi le regard de Carotte, tout en bas de la page 19, et un petit peu plus loin dans l'album, même beaucoup plus loin, au bas de la page 63, il y a Patate, donc qui est dans une scène très affectueuse avec le personnage de Yuna. Et vous lui avez placé des étoiles dans les yeux. Alors là, on est loin du réalisme, là, quand même, comme sous Jean-Riquin.
Oui, mais parfois, quand même, je vois dans leurs yeux, ils parlent pas du tout la langage d'humain, mais dans leurs yeux, on sent, j'entends leurs sentiments, j'entends ce qu'ils veulent. Je pense que tous les gens qui ont l'amour, l'affection, qui communiquent avec les chiens, ils comprendront. Et je pense qu'ils ont senti peut-être la même chose.
Mais est-ce qu'un œil de chien et un œil d'être humain s'animent de la même flamme, de la même façon dans un dessin comme le vôtre?
Je pense qu'il y a beaucoup de semblances quand même. C'est pour ça qu'on dit le meilleur ami de l'homme. C'est parce qu'on arrive à communiquer, on arrive à trouver certains points communs.
Bon, alors il y a les postures, il y a les yeux, on vient d'en parler, et puis il y a aussi le poil, le pelage du chien avec tout ce travail de stries, de traits extrêmement fins. On le voit très bien là sur la page 53 quand Yuna découvre Patate qui est encore chiot. Pour moi, c'est l'une des plus belles cases de l'album. Yuna s'exclame qu'il est mignon, et je pense que tous les lecteurs et les lectrices vont penser exactement la même chose en tombant sur cette case. On est en noir et blanc, hein, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est très très important. Donc avec ce dessin en noir et blanc, avec ces lignes très fines, ces stries, on pense forcément à la gravure, l'inspiration graphique de cet album. Ce sont les graveurs?
Presque, parce qu'en fait, je voulais vraiment accentuer l'arrivée de Patate, parce que les gens se moquaient de lui, parce que c'est un bâtard. Voilà, mélange de chien, mais qui est destiné peut-être pour être mangé, mais je le trouvais tellement impressionnant, et qu'en vivant avec lui, c'est vrai que je découvre vraiment plein d'autres choses, l'amour. Donc je voulais vraiment accentuer lorsqu'il est arrivé chez nous.
Et graphiquement, quels outils vous avez utilisés pour
dessiner
ce plan?
C'est le pinceau, oui. C'est le pinceau très très fin, un pinceau traditionnel. C'est avec ça que je l'ai fait.
Et vous le trempez dans quoi, votre pinceau?
L'encre de Chine.
Donc
oui.
L'encre de Chine, le pinceau sur fond blanc.
Oui, voilà.
Uniquement.
Oui.
Ah oui, alors c'est absolument impressionnant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement d'être une dessinatrice du noir et blanc?
Parce qu'en fait, j'ai remarqué que si on met plusieurs couleurs, on n'arrive pas trop à se concentrer à l'histoire. Et puis j'adore le noir et blanc. Et même si c'est en noir et blanc, les lecteurs arrivent à voir plein de couleurs là-dedans. Oui. C'est pas l'auteur qui décide, c'est à travers l'esprit ou les yeux de l'imagination des lecteurs qui mettront la couleur.
Et donc chaque lecteur et chaque lectrice va pouvoir d'une certaine façon se raconter sa propre histoire à travers le dessin en noir et blanc qui est le vôtre. Donc le noir et blanc apporte pour vous en tout cas plus de dramaturgie que la couleur. Il y a plus de possibilités, c'est
exactement
bien ça.
Exactement. Et puis moi j'aime beaucoup la spontanéité, j'aime beaucoup le trait de pinceau parce que c'est à travers chaque geste, chaque trait de pinceau en fait, on voit vraiment de l'énergie de l'auteur, je pense, je trouve. Donc
alors effectivement, c'est très fort d'un bout à l'autre de l'album. Page 45 maintenant, il y a une planche, là aussi je l'aime beaucoup, c'est une planche qui montre Un avec dans ses bras Chouquette, je crois. Donc c'est encore un autre chien. Et là finalement, cette planche-là, elle résume tout ce qu'on vient de dire depuis le début de cette émission, puisque dans cette planche, il y a le regard. Il y a la posture donc du chien qui est quasiment debout hein, dans les bras de Hun. Et puis il y a aussi le regard, le poil, la posture, vraiment tout y est. C'est presque une allégorie finalement cette planche-là.
Oui, tout à fait, parce que le chien, il n'a jamais vu le monde. Il a été toujours enfermé dans des cases. Donc c'est la première fois qu'il saute de sa case. Et Hun arrive à se lever et le mettre dans ses bras. Et pour montrer le monde, le ciel et tout ça. Mais le chien, il a peur de l'homme. Et voilà, c'est...
Oui, et là, finalement, chacun des deux personnages ne ressent pas forcément la même chose. C'est-à-dire que lui, il a peur, alors que Rune, il veut le protéger.
Quoi. Oui,
au contraire,
exactement.
C'est presque paternel sur le geste qu'il fait.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, et cette image, elle est pas très éloignée de la couverture de l'album. On va faire une courte pause et on y revient dans un instant.
Les enfants pour oublier.
Oh là là.
de l'amour dans un verre de pastèque. Viens, on s'accoude aux étoiles. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Viens, on s'accoude aux étoiles. Serre-moi de l'amour dans un verre de pastèque. Viens, on s'accoude aux étoiles. On a fait le tour de vers l'année.
WAF, c'est le titre de cette chanson signée Julien Doré, WAF évidemment, avec les aboiements de ces chiens. On les a entendus, ces chiens qui s'appellent Simone et Jean-Marc. On leur donne évidemment une petite caresse. Ils apparaissent d'ailleurs dans le clip, les deux chiens. J'invite évidemment les auditeurs à le regarder sur Internet. VMDN sur RFI avec Kumsuk Jeonri Kim pour son album La Saison des Pluies aux éditions Futuropolis. Alors on évoquait juste avant d'entendre Julien Doré cette pleine planche à la page 45 de l'album, dans lequel on voit le personnage de Hoon tenir Chouquette dans ses bras avec ce geste très protecteur et le regard assez inquiet de découvrir le monde, qui est celui du chien. Et j'expliquais que bien cette image-là, eh bien, elle résonnait d'une façon assez particulière aussi avec la couverture de l'album. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire cette couverture et nous expliquer les raisons qui ont fait que vous avez choisi cette image-là pour que ce soit la couverture de l'album?
En fait, c'est un des trois chiens qui était dans une case enfermée. Et Hoon, à côté, il faisait une petite agriculture pour des tomates, pour la pomme de terre et tout ça. Et puis, il a vu un jour qu'il était enfermé. Et puis, à chaque tour, il sort de la case pour au moins montrer. Parce qu'à chaque fois, il sautait les chiens de case pour sortir.
De la cage, oui.
Oui, voilà. Et donc ça, c'était l'image de la couverture était une des cages d'une page, d'une page. Et en fait, c'est le Petropolis qui a choisi à faire la couverture avec cette image.
Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur donc, de l'album, l'image qu'on évoquait tout à l'heure, Hoon est de face. Et on voit le chien aussi qui nous regarde, le lecteur. Alors que sur la couverture, Hoon est de dos. Et le chien, lui, eh bien, il est dessiné de profil. C'est très étonnant d'avoir justement une couverture avec le personnage principal. Alors, je ne sais pas si Hoon est le personnage principal ou si c'est le chien, on peut en discuter d'ailleurs. Mais de voir l'être humain, on va dire, principal, de dos, c'est rare quand même.
Oui, en fait, lorsque donc Futuropolis m'a proposé cette couverture, moi j'ai adoré. C'est pas moi qui a choisi, mais j'ai adoré. J'ai beaucoup apprécié. J'ai tout de suite dit OK.
Oui, alors c'est vrai que on a vraiment l'impression d'être soi-même en fait, Hoon, et de cheminer à sa suite avec donc ce chien de profil dont la tête dépasse de l'épaule droite, et puis il y a la pluie. Oui. Aussi, il y a évidemment le décor et la nature, donc la pluie qui fait référence au titre de l'album, La Saison des Pluies, hein, je le rappelle, qui correspond aussi à l'un des chapitres de votre récit, peut-être d'ailleurs l'un des plus émouvants. Et la nature, elle est aussi très présente, hein, dans votre récit, Kumsuk Jeonri Kim. On a l'impression que le climat, la météo, les arbres, ce sont aussi des personnages du récit.
Tout à fait, vous avez bien vu, parce qu'en fait, dans la saison des pluies, le temps et la saison est très très importante, parce que c'est vrai que tout au long de l'année, les gens consomment la viande de canine. Et par contre, il y a trois dates en été, la période la plus chaude, surtout ces trois jours-là destinés à manger le chien pour les humains, et puis c'est souvent croisé avec la saison de pluie. C'est pour ça en fait j'ai mis la décoration de la pluie.
Oui, donc le décor effectivement pluvieux, et on a vraiment l'impression effectivement que la végétation, les arbres, notamment la météo influe sur le destin des humains. C'est vraiment des éléments de votre narration.
Bien
et
sûr.
De la relation entre les êtres humains et les animaux.
Bien sûr, parce qu'en fait pour moi la nature à chaque livre en fait c'est très très important, parce que quand j'étais petite, je suis née déjà dans le sud de la Corée. J'étais entourée de la nature et ça m'a donné beaucoup de l'énergie et ça m'a beaucoup influencée. Donc à chaque livre, finalement, les éléments de la nature, pour moi, c'est très, très important. Deuxième chose, c'est que les gens qui habitent en ville, souvent pendant les vacances, ils abandonnent leurs chiens à la campagne. Donc ces choses-là aussi, ça fait partie. Je voulais aussi parler de ces choses-là et c'est oui.
Oui, et c'est vrai qu'il y a des scènes absolument extraordinaires. Là, par exemple, il y a une scène de promenade en barque. On est vraiment. Alors là, pour le coup, on se dit, on est dans une scène purement sud-coréenne. C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait.
C'est presque un tableau. Pourquoi vous avez justement tenu à mettre cette scène-là au cœur de votre récit ? On est à peu près à la moitié de l'album.
Ben, parce qu'en fait, parce que c'est une histoire très tragédie, très triste, vraiment parfois trop lourd. Donc il y a des éléments de la nature qui pourraient aider à rendre un peu plus, comment dire, léger, un peu plus belle peut-être, parce que il y a des contradictions là-dedans, parce qu'il y a l'horreur à la fois, la belle image de la nature qui va ensemble, qui vont ensemble peut-être, qui serait mieux pour raconter des histoires comme ça, c'est pour ça.
Mais c'est vrai que la campagne fait que la poésie et le rêve ne sont pas très loin. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous décrire la page 105 qui, là aussi, est une planche qui prend toute la hauteur de la page?
Et parce qu'en fait, quand on se promène avec nos chiens à la campagne, on dit qu'on part en voyage. C'est le moment où les chiens qui adorent pendant la journée, nous aussi, ces moments-là, c'est vraiment c'est le bonheur pour les chiens et pour nous aussi, parce qu'on marche dans la nature et on a l'impression qu'on part en voyage, c'est du bonheur. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné ça.
Mais décrivez-nous, puisqu'on est à la radio, décrivez-nous plus précisément cette page, parce qu'on a vraiment l'impression d'un véritable tableau, quoi. On a vraiment l'impression que vous avez composé l'image. Il y a trois ou quatre niveaux dans cette image. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte.
Oui. À la campagne où on habite, c'est dans une île. Donc, il y a plusieurs aspects de la nature. Particulièrement, cette scène, c'est devant notre village, là où il y a de l'étang. Un petit étang avec des belles, comment dire, de nature. Donc, on a trouvé la vache, un bac, on dit.
Une barque, oui.
Oui, une barque. Et on est monté dessus. On est parti comme ça la journée. Donc, j'avais l'impression, ils étaient tellement contents, les chiens. J'avais l'impression qu'ils s'envolent dans la nature, comme on est dans le ciel.
C'est-à-dire qu'en bas de l'image, il y a Yuna, hein, donc oui. La jeune femme, elle est entourée comme ça de deux chiens et elle est en face. On voit qu'elle est dans la barque, sur les flots. Il y a les roseaux. Hein, donc là, c'est vraiment la partie basse de l'image. Et puis, effectivement, il y a les chiens qui ont l'air de sauter, et puis les personnages, les humains, qui ont l'air de s'envoler comme ça et qui partent dans le ciel jusqu'au nuage. Alors on le disait, hein, Kumsook Jeonrikin, vous êtes une dessinatrice du noir et blanc. Quand on dessine en noir et en blanc, il y a toujours une question qui arrive très vite, puisqu'on a finalement le contraste, donc on a le choix entre uniquement deux teintes. Quelle est la part du blanc et la part du noir dans un dessin comme celui-ci ? Il s'agit de bien doser le blanc, en quelque sorte, ou de bien doser le noir.
En fait, ça, pour moi, c'est comme si c'était une respiration. Le vide n'est pas le vide, le rempli n'est pas le rempli. Donc, c'est quand il y a le vide, c'est-à-dire que le blanc, c'est une respiration que je laisse aux gens pour respirer.
Donc, le blanc raconte autant l'histoire que le noir.
Bien sûr, il y a autant d'importance, oui.
Alors, il y a une scène au milieu de l'album qui est muette. Une scène qui se déroule au milieu de la forêt. Elle est assez longue. Hein. Elle se situe entre les pages 84 et 90 avec le chien qui s'appelle Camille. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous raconter cette scène ? Parce que là, pour le coup, on expliquait il y a un instant le rôle de la nature et le rôle du climat. l'anima sur les personnages, singulièrement sur les chiens. Là, on est vraiment en plein dedans, là, à travers cet exemple-là.
Bah, en fait, en Corée, à la campagne, il y a des chiens qui sont attachés donc, d'une chaîne, même pas d'un maître, hein, souvent que les maîtres ne donnent pas ni d'eau, ni à manger. Donc ça, ça se passe pas dans la forêt, en fait. C'est chez les voisins, pas très loin, de chez Yuna et Hoon. Et Yuna, à travers la fenêtre de sa maison, elle pourrait voir peut-être ce chien qui n'a pas de nom, d'ailleurs, parce que les propriétaires ne donnent pas de nom. Donc, elle a donné le nom Camille, mais Hoon lui a donné un autre nom.
Absolument, c'est pas le même.
Oui. Donc là, la pluie commence à tomber. Quand il y a la mousson, donc la saison de pluie, il pleut énormément. Donc Yuna s'inquiète en voyant la tempête, le typhon.
Le typhon
et le vent. Elle s'inquiète en regardant par la fenêtre. Est-ce que Camille, elle va survivre ou pas?
Voilà, et les éléments naturels qui se déchaînent, on les retrouve aussi dans une autre scène, dans un cauchemar de Yuna. On est justement dans le chapitre qui donne son titre à l'album, La saison des pluies.
Patate, carotte, non, venez. Il y a longtemps, alors que j'étais encore une enfant, il pleuvait également, à cette période. Je ne me souviens pas comment j'avais appris cela. J'avais probablement surpris une discussion entre adultes. Il pleuvait des cordes. Il fallait absolument qu'il se sauve avant que la pluie s'arrête. N'aboie pas. D'après eux, tu es un chien de merde. Ils ont donc décidé de te manger. Aucun chien ne mérite ça. Ne bouge pas. Tu es libre. Va-t'en. Fuis le plus loin possible. Dépêche-toi. Imbécile. Vas-y. Si tu reviens, tu mourras. Cours et ne regarde pas derrière toi. Ne reviens jamais, plus jamais. C'est quoi ce cri? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose était pendu à un arbre. Non ! C'était le chien. Deux hommes fumaient à côté. L'un d'eux tenait encore une batte de baseball à la main. Je lui avais pourtant dit de ne jamais revenir, mais il est revenu vers son maître. Le visage de l'homme qui fumait s'est éclairé. C'est papa ? Non. C'est monsieur Han, le tueur de chiens dans notre village. Merci, tu m'as réveillée d'un cauchemar. Han avait pris le visage de mon père dans ce rêve. Quelle horreur!
Comment vous est venue l'idée de cette scène cauchemardesque comme Sook-jeon Rikim?
Bah, en fait, tout simplement, quand j'étais petite, c'est vrai qu'il y avait un chien dans la... que tu voulais le sauver et que tu n'as pas pu le sauver. Et puis, finalement, les gens qui consomment ou qui font la violence, c'est pas loin de vous. Ça pourrait être votre famille, ça pourrait être les voisins, ça pourrait être... C'est pas par méchanceté qu'ils tuent. Ils croient que c'est comme ça. Ils croient que c'est, comment dire, comme un poulet. Et donc je voulais indiquer que je voulais parler de ça. C'est pas les gens qui sont comme ça, c'est pas loin. Ça pourrait être vous aussi.
Oui, mais justement, quand cette expression tueur de chien hein, qu'on entend dans cet extrait, on a presque l'impression que c'est un métier ou presque que c'est une habitude. Il y en a beaucoup des tueurs de chiens dans les villages en Corée du Sud aujourd'hui.
Avant, il y en avait beaucoup. Maintenant, c'est en train de disparaître. Mais comme je vous ai dit que la loi n'interdit, il y a un contradictoire dans la loi, c'est-à-dire que la violence commise aux chiens c'est interdit. mais la consommation n'est pas interdite. Donc, il y a toujours des consommateurs, demandeurs. Il y a toujours l'industrie tout autour de ça. Donc, il y a toujours des chiens, le boucher.
Alors, le dessin de cette scène, il est très différent du reste de l'album. C'est pour montrer justement qu'on est dans un cauchemar. C'est pour ça que vous l'avez traité différemment.
Tout à fait. Dans un cauchemar, dans un passé, pour adoucir ces cauchemars quand même.
Et vous avez utilisé les mêmes outils graphiques. C'est une question de délayage de l'encre de Chine. Pourquoi justement on a cette impression très différente visuellement parlant?
C'est le papier qui est différent. Ça, c'est le papier à riz. Et puis, j'ai dilué avec de l'eau pour différencier le niveau de gris.
Avec des pinceaux aussi, j'imagine, de tailles différentes.
Bien sûr, oui.
Alors l'histoire la plus triste peut-être de cet album, qui est un peu construit comme un recueil de nouvelles, même s'il y a des personnages qui se retrouvent d'un chapitre à un autre, c'est celle de Choco. Choco, c'est une chienne qui est maltraitée par son maître, qui la met dans une cage sans plancher, donc elle ne peut même pas se mettre debout dans des conditions de confort minimal. C'est des conditions absolument révoltantes aujourd'hui. C'est une histoire vraie qui vous a inspiré. Vous pouvez pas inventer une histoire aussi atroce. Si.
C'est une histoire vraie. Il y a encore ça, c'est juste Choco dans une case, mais il existe encore des fermes comme Ugine, des cases comme ça, et les chiens qui peuvent même pas se tenir debout et tout ça, oui.
Voilà, ça, j'imagine que tous ceux qui vont lire votre récit vont vraiment être révoltés.
Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé. Peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées, où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantiques. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Me voilà devant la chapelle, sous cette pluie qui m'indiffère, tenu en laisse par un fidèle, allergique au lieu de prière. Les gens parlent à côté de moi, tu as de la chance toi au moins. La souffrance ne t'atteint pas, l'émotion c'est pour les humains. Et dire que ça se veut chrétien, ça ne comprend même pas que l'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Je pourrais vivre dans la rue, être bourré de coups de pied, manger beaucoup moins que mon dû, dormir sur le pavé mouillé. En échange d'une caresse, de temps en temps d'un bout de pain, je donne toute ma tendresse pour l'éternité ou plus loin. Prévenez-moi lorsque quelqu'un aimera un homme comme moi, comme j'ai aimé cet humain, que je pleure tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens.
La voix de Renaud dans VMDN sur RFI, une chanson inspirée par Baltique, le labrador femelle de l'ancien président Mitterrand qui était resté à la porte de l'église de Jarnac en Charente dans l'ouest de la France au moment des obsèques de son maître. C'était en janvier 1995. Vous avez écouté la chanson très attentivement, Koumsouk Jeanne-Rikim. Ça vous a touché ?
Ah, très très touché, oui.
Et vous êtes d'accord avec Renaud quand il chante « L'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit ».
Oui, je suis d'accord.
Alors avant de continuer cette conversation, je vous propose de découvrir une autre amoureuse des chiens. Elle s'appelle Audrey Jougla. Elle vient de publier un livre intitulé « Montaigne, Kant et mon chien ». C'est aux éditions Delachaux et Nestlé. Et dans ce livre à mi-chemin entre récit et philosophie, elle nous offre un regard singulier sur la notion d'animal de compagnie. Fanny Blechner l'a rencontré pour nous.
Tout commence en Argentine, à Mendoza. C'est là qu'Audrey Jougla va rencontrer un chiot en piteux état.
Et j'ai décidé que sa vie serait heureuse à partir du moment où je l'avais adopté. Donc je me suis dit, voilà, c'est comme une comédie. Ça commence pas forcément bien, mais ça finira bien pour elle.
Comédie, ce sera donc le nom de cette chienne avec laquelle la jeune femme va partager sa vie durant 13 ans. Et un tel choix n'a rien d'anodin.
Le chien est forcément une contrainte, mais il nous permet aussi d'accepter ces contraintes qu'on a choisies et donc d'assumer nos choix. Et en ce sens, c'est un bel exercice de la liberté au sens existentialiste, c'est-à-dire qu'il nous apprend à assumer, à nous engager dans nos choix, à cultiver un certain sens du devoir. Mais c'est aussi un apprentissage beaucoup plus profond de la liberté par rapport à l'acceptation, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que mon chien acceptait ce qui est, et c'est vraiment quelque chose qui, à nous humains, nous coûte énormément.
La liberté, c'est l'une des notions abordées ici, mais aussi le rapport au temps, au toucher. De nombreux philosophes sont cités pour étayer le propos, notamment deux, chers à l'autrice et dont le nom figure dans le titre, à commencer par Montaigne.
Il dit « quand je danse, je danse, quand je dors, je dors ». C'est un extrait très célèbre des Essais. Et c'est quelque chose que le chien réussit particulièrement à faire, être pleinement à ce que l'on fait. Et Kant, c'est aussi la notion finalement de devoir et la notion de responsabilité morale, d'impératif moral. C'est-à-dire qu'il nous incite en tout cas à considérer les autres non pas comme des moyens mais comme des fins.
Autant de réflexions qui viennent progressivement à l'esprit d'Audrey Jougla en côtoyant Comédie. Plus qu'un animal de compagnie au sens littéral, la chienne devient un véritable maître à penser. Et un temps musicienne, la jeune femme est devenue professeure de philosophie.
J'étais beaucoup dans la théorie, etc. C'est très compliqué parfois d'appliquer ce qu'on enseigne ou de mettre en pratique dans sa vie quotidienne les préceptes ou les vertus qu'on connaît. Et c'est vrai qu'il y a toujours une marge hein, entre ce qu'on sait et ce qu'on aimerait mettre en œuvre. Et je pense que voilà, le chien nous aide à réduire cette marge quelque part en mettant en pratique de manière tout à fait naturelle des vertus qui nous semble à nous, humains, parfois inaccessibles.
Si bien qu'elle pose la question, le chien est-il spinoziste ?
Parce que Spinoza est le philosophe de la joie. La joie, c'est finalement une émotion qui a souvent été un petit peu déconsidérée par rapport au sérieux ou à la gravité. C'est-à-dire que on a l'impression que la joie, c'est quelque chose d'enfantin, d'un petit peu bébête aussi. Et le chien est un animal joyeux par essence. C'est la joie en permanence. Il met beaucoup de joie dans nos vies, mais c'est aussi une joie qui n'a pas besoin d'occasion pour exister. C'est-à-dire qu'il fait la fête. Très facilement, et il se réjouit très facilement.
Depuis, Comédie est décédée, mais reste ses enseignements apportés à sa maîtresse et cette joie communicative et touchante que l'on retrouve entre les pages du livre.
Montaigne, Kant et mon chien d'Audrey Jougla, un livre publié chez Delachaux et Nestlé. Stéphanie Blechner, à qui je souhaite par ailleurs un très joyeux anniversaire et qu'on va retrouver très vite dans VMDN. Alors, Koumsouk Jeanne-Rikim, beaucoup de choses dans ce que raconte Audrey Jougla. Alors, elle nous parle évidemment de philosophes occidentaux, hein, très européens. Est-ce que vous partagez justement ce même regard sur la relation entre un chien et un humain ?
Oui, elle disait que c'est vraiment le chien représente la joie, c'est vrai. Souvent, le chien, il est toujours en train de rigoler. On a l'impression toujours il est en train de rigoler et puis il a envie de jouer. Dès que je le vois, c'est que je suis heureuse aussi, donc c'est vrai.
Et quand Kant nous explique que le chien apprend à son maître à s'engager, à respecter les choix, à cultiver le sens du devoir, ça aussi, c'est quelque
bien
chose
sûr.
Que vous avez ressenti avec votre animal à vous ?
Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup appris grâce à mes chiens. Et finalement, je me suis aussi posé beaucoup de questions sur moi-même, sur la façon dont je vive et tous les jours. Parce qu'en fait, les comportements de chien, c'est comme le miroir. C'est votre, comment dire, votre action, votre comportement. Ça reflète, ça répond complètement le chien. Donc, finalement, c'est un travail en soi-même.
Alors, il y a deux clans dans le monde, vous savez, en tout cas dans un pays comme la France, il y a ceux qui aiment les chiens et ceux qui aiment les chats. Que vous auriez pu faire le même album sur les chats.
Oui, c'est vrai. En fait, moi, avant, j'aimais pas trop les chiens, avant que je connaisse le chien. Mais depuis que j'ai le chien, moi, j'aime tous les animaux. En fait, même les chats, j'ai plus peur. Et je les observe avec grand plaisir. Je les aime. Mais comme j'ai l'allergie très forte aux chats, je ne pourrais pas vivre avec le chat. Mais oui, j'aurais pu. Oui.
Vous auriez pu. Alors, l'album, et c'est marqué hein, quand on ouvre le livre, c'est vous-même qui l'avez traduit du coréen avec votre mari Loïc Gendry. Vous êtes donc passé non seulement d'une langue à l'autre, mais aussi d'un alphabet à l'autre, puisque le Hangul, c'est ça, donc c'est oui. Le nom de l'alphabet coréen, et pas du tout le même que l'alphabet latin. Ça a été compliqué, justement, ce travail de traduction. Comment vous avez procédé?
C'est compliqué. Par contre, lorsque je crée un album, un livre déjà, pas pour le but, la taille, etc., quand j'écris en coréen, déjà, tu penses à la fois en français. Donc, la traduction du coréen en français, ça demande beaucoup plus de texte en général. Parce que la langue coréenne, on parle pas forcément sujet. Donc, ça pourrait éliminer tout ça. Mais en français, on parle tout du sujet. Il y a la construction de phrases qui est différente.
Donc, ça veut dire que les bulles dans l'édition française sont plus grandes. Il y a plus de caractères que dans l'édition coréenne.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que ça a aussi une influence sur le dessin? Parce que si la bulle prend beaucoup trop de place par rapport à votre dessin original, ça peut poser des problèmes, non?
Bien sûr. Donc, moi, quand je crée, je fais un storyboard et tout ça, je réfléchis à tout ça. Est-ce que ça va aller dans les deux sens? Ou pas.
Donc vous créez en fait dans votre tête
l'album
pour les deux langues en même temps, quoi, d'une façon générale. Bah, bien sûr, c'est pas si évident que ça. Bien sûr. Mais est-ce que le lecteur coréen et le lecteur francophone réagit de la même façon? Est-ce que les codes graphiques, par exemple, qui sont ceux de la Corée du Sud, sont les mêmes que les codes graphiques habituels de votre public chez Futuropolis en français?
Bah, je pense que c'est un peu différent déjà parce que en Corée, les romans graphiques, les gens, il y a pas beaucoup de lecteurs déjà parce que souvent on dit webtoon, c'est-à-dire qu'on regarde que sur le portable, à travers le handphone, comme des portables.
Oui, le smartphone, oui.
Oui, smartphone et tout ça, il y a très peu de livres qui sortent déjà en bande dessinée, donc c'est pas du tout le même rapport.
Voilà, merci beaucoup en tout cas, comme ceux que Gendry Kim, d'être passé nous voir dans VMDN sur RFI. La saison des pluies, je le rappelle, est parue aux éditions Futuropolis. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve évidemment demain avec du théâtre cette fois et le crépuscule des singes. La pièce est à l'affiche en ce moment du théâtre du Vieux-Colombier à Paris avec la troupe de la Comédie Française. Une pièce qui évoque le poids de la censure et qui rend hommage à deux grands auteurs de théâtre, Bulgakov, auteur russe, et Molière, auteur français dont on célèbre les 400 ans cette année. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette saison Molière que ce spectacle a été conçu par la metteuse en scène et co-autrice Louise Vigneault. Elle sera avec nous en compagnie de deux des comédiens de la troupe, Nicolas Chupin qui joue Molière et Pierre-Louis Calixte qui joue Bulgakov. À demain donc, merci de votre fidélité et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
les rencontres internationales.